Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Et bien pour cette émission un peu spéciale Noël, hein, nous sommes toutes les deux, moi-même Agnès et Marie-Laure. Bonsoir Marie-Laure.
Bonsoir Agnès, je suis contente de voir que tu sais qui tu es, c'est tout, toujours rassurant. Aujourd'hui on a une émission d'une densité incroyable. Parce que d'abord, on a sur le plateau deux beaux garçons qui viennent, non pas un, mais pas deux, deux Cyrano. Mais en réalité, il y a six Cyrano. Oh, mon Dieu, je voulais la faire. Elle est terrible, elle est terrible. Nous parlerons également de notre mascotte qui plaît beaucoup à mes invités. Je vais leur passer, comme ça, ils pourront jouer avec et la faire manger. Qui est un Furby, mais un Furby new look. Un Furby qui est entre la limace, le boa, qui est très rigolote. Tenez Yannick, je vous la passe, comme ça vous pourrez faire de l'animation. Nous parlerons également du fantôme de l'opéra avec des extraits du bourgeois gentilhomme. Nous aurons
au
également...
Au théâtre Antoine.
Mais j'y reviens. Hubert Vignolles pour un livre sublime qui s'appelle « Dresser la table ». Tout un art. Et au moment de Noël, on aime bien mettre les petits plats dans les grands, comme dirait tante Agathe. Mais tout de suite, hier, nous étions au Théâtre Antoine.
Oui.
Mais oui, voilà, comme ça.
Nous étions toutes les deux au Théâtre Antoine, ben, pour le fameux bourgeois avec, avec Jean-Paul Rouve.
Alors, je dois avouer que, bon, avant, je vous parlerai après du fantôme de l'opéra qui se joue également au Théâtre Antoine. Donc, ouais. Merci, grâce à Madame Hidalgo. Quand on va au théâtre maintenant dans Paris, on fait local, on fait genre Avignon. On voit une série de spectacles dans le même coin. Moi, quand je vais au Lucernaire, je me fais une ligne Lucernaire. Alors, je dois reconnaître que je ne suis pas une fan de Monsieur Rouve, mais depuis les Robins des Bois, hein, je suis pas une fan de ce comédien. Voilà. Donc, mais là, nous avons été, et je mets Agnès dans la boucle, nous avons été cueillis. D'abord, la mise en scène de Jérémy Lindemann est extrêmement futée. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'à la fois, on a le texte de Molière, il y a une ou deux coupes, mais enfin bon, pour ce bourgeois gentilhomme, c'est ludique, c'est festif, c'est vraiment formidable. Et je trouve que Jean-Paul Rouve est extrêmement bien dans son rôle, mais toute l'équipe est formidable. Ouais. On a vraiment de très bons comédiens, on a des danseurs. Agnès, elle a fait de l'œil à un danseur toute la soirée. Moi, je lui dis, arrête, ça commence à se...
Elle me faisait du coude.
Ça commence à se remarquer. Moi, j'ai fait de l'œil. Bon, et puis bon, il y a Michael Cohen que j'adore. Mais l'équipe, il y a Jean-Louis Barcelona.
Oui, qui joue le maître de philosophie.
Le maître de philosophie et qui fait
avec ses joues
l'un
rouges.
des Turcs, des Mamamouchi. Et j'ai trouvé que ce qui est formidable, c'est grâce à un comédien éminemment populaire comme Jean-Paul Rouve, qui est populaire, j'ai envie de dire, vraiment dans le bon sens du terme, vraiment. Il amène au Théâtre Antoine un public qui ne serait peut-être jamais allé voir le bourgeois gentilhomme.
Oui,
et
vrai,
ça, je trouve que c'est formidable. Et c'est ça, la fonction du théâtre. Agnès, je t'ai entraînée avec moi.
Oui.
Bon, tu t'es pas beaucoup défendue.
Non, je me suis laissée.
Non, elle était sage.
Non,
elle
pas.
Non, je veux pas. Non.
C'est un très beau théâtre, en plus, le Théâtre Antoine.
Oui.
Ça donne envie d'y aller, juste déjà pour le théâtre.
Oui. Et puis, il y a une touche moderne. Bah oui, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi des références à aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le texte est respecté, mais je trouve qu'on est presque en 2025. Avec Karl Lagerfeld à un moment.
Oui, qui est le couturier.
En costumier, le costumier de Monsieur Jourdain.
Quelqu'un qui est le
Lagerfeld,
tailleur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faut être précis sur le texte. C'est un tailleur. Ce n'est pas un costumier. Ce n'est pas la même chose.
Voilà. Avec son accent un peu allemand, à la Karl Lagerfeld. Il y a les Corées. Ils ont tous des petites mimiques. Qui nous plonge, je trouve, dans les années 2020. Et puis la maîtresse métisse du conte aussi.
De Rimmen.
Oui. C'est ça que j'ai trouvé assez... Bon, moi, c'est ce qui m'a marqué.
Moi, j'ai beaucoup aimé Madame Jourdain. J'ai trouvé formidable. Tous les comédiens sont très, très bien.
Oui.
Et puis, il y a des petits trucs de mise en scène que j'ai trouvé très drôles. Par exemple, Michael Cohen qui fait ce marquis qui abuse
Mais de toute façon, M. Jourdain, il rêve tellement, mais tellement, d'être noble, d'accéder à tout ça. Et Molière savait extrêmement bien stigmatiser les mâles du siècle. Oui, pardon, excusez-moi. Les mâles du, les mots du siècle, s'il vous plaît. Les mots du siècle. Que, c'est, on est, et alors, Michael Cohen, que j'adore, depuis très longtemps. Coucou, Michael, je t'ai pas attendu hier parce qu'Agnès me surveillait. Mais, et à un moment donné, il ne se souvient pas de, du nom de monsieur, mais ça, ce n'est pas dans le texte, c'est un truc de mise en scène qui respecte le texte et qui est tellement drôle. Donc voilà. Alors ça se joue au Théâtre Antoine. Ce qu'il faut dire, c'est du mardi au samedi. Samedi, vous avez deux représentations. C'est, si vous voulez y aller le week-end, vous avez intérêt à vous y prendre maintenant. Tais-toi, Furby, ça suffit maintenant. Et c'est un spectacle pour toute la famille.
Oui, ah oui, ah, complètement. La question que je me suis posée, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Laure, c'est est-ce que Jean-Paul Rouve, alors, est-ce qu'il est vraiment naïf ou pas ? C'est la question
alors,
que je me
Monsieur
suis posée,
Jourdain,
moi.
A une sorte de naïveté.
Dans, oui, mais
Monsieur Jourdain a une sorte
personnage.
De naïveté. Même, il est un peu naïf, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout recevoir pour être un aristocrate. Alors, je peux vous dire qu'il y a Yannick, qui est l'un des Cyrano, qui essaye de faire taire Furby, et il a du mal. Alors, vous avez les piles à un endroit que la décence me refuse de dire. Vous avez le boîtier de Bill, voilà, et il doit y avoir un on-off.
J'ai pas de tournevis.
Ah, là, et bah tant pis, et on entendra Furby, c'est pas grave. J'avais promis que ça soit notre mascotte du jour, mais il y a un truc pour le faire éteindre. Appuyez sur la truffe. Ça, ne le dites pas dans Cyrano.
Moi, là, pour revenir à Cyrano, je me suis demandé si est-ce que Jean-Paul Rouve fait naïf. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il fait un peu...
Ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il joue le naïf qui n'est pas dans le texte? C'est ça que tu veux dire?
Dans le personnage, oui.
Mais au début, oui, mais il est comme tous ces gens à qui on apporte de l'eau à leur moulin. C'est la base du courtisan. Voilà, c'est « Oh, mon Seigneur, que vous êtes beau, que vous êtes magnifique. » C'est ça. Donc, les autres, ils font ça autour de lui. Et lui, il est prêt à tout accepter parce que le bourgeois gentilhomme, c'est comme le dit très bien le titre, c'est un gros bourgeois qui a fait fortune, mais qui rêve d'avoir autre chose. C'est un mal du siècle. C'est très bien dépeint dans l'école des femmes, où l'un des personnages dit, de toute façon, vous pouvez mater Monsieur Delama s'il y a une motte de terre entourée d'eau. C'est exactement ça. Mmh. D'ailleurs, quand vous décryptez les noms de l'aristocratie, ça procède du même genre. Alors avant.
Ah oui, alors tu as
le fantôme de l'opéra. Ah,
toujours alors, au Théâtre Antoine,
mais
Marie-Laure.
À 19h, c'est pour ça que vous
ça pouvez faire. C'est fantastique.
Les deux. Mais
bien sûr.
Oui.
Les deux,
bah,
Avignon.
Bah,
hein.
Oui.
Oh mon Dieu, j'ai perdu mes que manger, ramasse, repère. Alors, c'est un spectacle musical qui est adapté d'un livre de Gaston Leroux. Il faut lire Gaston Leroux. C'est formidable, Gaston Leroux. Lisez Gaston. Je n'ai aucun intérêt dans la maison d'édition, je tiens tout de suite à le dire. Par Benoît Solès, mise en scène Julien Aluguette et les paroles de Pierre-Yves Lebert. Moi, j'ai trouvé que les comédiens chanteurs étaient formidables, vraiment très, 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 très bons, parce que, et ce sont des professionnels, parce qu'on a trop eu de pseudo comédie musicale avec des gens qui ne l'étaient pas. Voilà, je balance, je ne donnerai pas les noms.
Bah
Yannick, je vois que vous froncez les sourcils. Vous pensez faire bientôt une comédie musicale?
Non, pas du tout, mais j'avais envie que vous donniez des noms sur
oui,
les
mais
sur
je
ces
donnerai
fameuses
après, je donnerai après
entre nous.
Mais la compagnie la compagnie des Moutons Noirs a fait une comédie musicale, c'était sur le Titanic.
Ah oui.
Et où on chantait
que j'avais vu absolument et j'aime pas faire des compliments comme ça. Mais j'avais trouvé ça très bien.
Ah bah écoutez.
C'est pour ça, lorsqu'Agnès me dit « j'ai envie de les recevoir », j'y écoute. Why not?
Bon, enfin, écoutez, nous, on est très contents que vous soyez là.
Un peu d'anglais nous fera pas mal.
Parce que Edmond Rostand parlait anglais couramment. Voilà. Donc, il faut quand même que ça soit dit. J'aimerais, s'il vous plaît, une première pause musicale avec le fantôme de l'opéra.
Ma mère ne voulait pas que je l'embrasse. Mon père m'a forcé à porter un masque. Voilà ma vie. Depuis toujours, on me montre comme une curiosité, comme un monstre. Ou bien on me cache comme une anomalie. Moi je voulais être comme tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. Moi je ne le suis pas. Je me suis fait un monde à moi. Je voulais être comme tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. Moi je suis un paria. Je suis le fantôme de l'opéra. Comme tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. Moi je suis un paria. Je suis le fantôme de l'opéra.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir avec nous dans le studio Yannick et Roland. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, nous allons parler de Cyrano avec un S. Nous sommes tous Cyrano qui se joue actuellement au théâtre du Lucernaire, voilà, jusqu'au 15 février. Donc Roland, Bruy, Yannick, Lobin qui joue dans Cyrano. Alors je vais vous, voilà, vous présenter, hein, avant. Vous faites partie de la fameuse compagnie Les Moutons Noirs, compagnie créée il y a 14-15 ans. Vous proposez souvent des pièces drôles, décalées. Vous aimez le classique, mais pas de manière classique. Nous allons donc découvrir ce Cyrano. Alors, 5 comédiens sur scène. Mm-hmm. Bon, la particularité du spectacle, c'est que chaque comédien, que ce soit homme ou femme, joue un moment Cyrano, ce personnage attachant. Et d'ailleurs, vient se confier au public, hein, en faisant part d'un complexe. Voilà, donc on rentre complètement dans l'intimité du personnage de Cyrano. Alors, Yannick, vous êtes à l'origine, hein, de la création de la compagnie.
Ah oui, on est à l'origine, on est cinq comédiens qui avons créé la compagnie. Roland Bruy, qui est à mes côtés, moi, Axel Drey, Bertrand Saunier et Paola Secret. Voilà, on était cinq fondateurs de cette compagnie il y a 14 ans.
C'est votre sixième création?
C'était plus si, même.
Oui, alors c'est la sixième création, effectivement, on l'a créée en 2019, hein, c'est ça?
2019, oui.
Ouais. Et là, on en est à la onzième création.
Onzième, c'est ça, vrai. Ouais.
Le spectacle Cyrano a été créé il y a quelques temps. Hein,
en 2019.
Oui, c'est ça. Là. Donc là, vous reprenez cette version. Alors, j'ai vu, Roland, qu'il y avait eu également une version à Avignon, mais un peu différente l'an dernier, avec sept personnages.
Ah, c'est possible. Oui, oui. Mais sur Avignon, moi, je l'ai pas vu cette version, mais.
D'accord. Donc là, c'est vraiment la même version finalement que 2019.
C'est la même version. On l'a joué sur Avignon en 2019 et on est revenu en 2021. On a fait deux Avignons avec cette pièce.
Oui. Alors, pourquoi le titre « Nous sommes tous Cyrano, Roland » ?
Bah parce que en fait, on a eu l'idée quand on a créé cette pièce de partir sur vu qu'on sait que Cyrano il a un complexe, c'est son nez. On a pris le parti de se dire pourquoi pas dire chacun son Cyrano. On pense qu'on a tous quelque chose en nous de Cyrano, tous un petit complexe ou plusieurs complexes même. Et on a décidé entre chaque acte de donner nos complexes en fait personnellement. Ça veut dire que vous disiez tout à l'heure que c'est Cyrano. En fait, on sort un moment du personnage et entre l'acte, on donne notre complexe à nous, mais notre vrai complexe qu'on vit dans notre propre vie en tant que comédien, en tant qu'homme, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avancez, vous prenez le micro. Alors, bon, je rajoute juste, vous êtes tous habillés en noir ou gris, hein, quasiment.
C'est ça,
une mise en scène très sobre. Donc, vous avancez, vous dites, moi, Roland, j'ai toujours, je sais pas, j'ai sué quand je faisais du sport. Enfin, voilà, des choses comme ça.
Ouais, moi, j'ai eu des problèmes de poids. Donc, voilà, j'exprime mon complexe de poids, de prise de poids, de perte de poids, de reprise de poids. Enfin, voilà, c'est mon complexe. Oui. Que j'exprime.
Roland, vous interprétez donc Cyrano, hein, oui. Bien évidemment, mais également un autre personnage qui est Lebray.
Tout à fait.
Voilà, est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux ou...
Bon, on a tous. En fait, le truc, c'est quand on a monté cette pièce, on avait tous envie de jouer Cyrano. Il y avait ça aussi au tout début. Donc, mais ça me dérange de défendre Lebray. J'adore aussi. Mais c'est vrai que de jouer Cyrano, il y a un truc particulier. Le personnage est tellement fougueux. Voilà, on a envie de l'interpréter, en tout cas.
Vous le jouez à quel moment de la pièce ?
À l'acte 4. L'acte 4.
L'acte 4. Pendant la guerre. Il n'y a pas, justement, un effet de surprise avec une pâtisserie ou quelque chose?
Alors, ça, c'est moi dans mon entracte où je parle de pâtisserie, de chouquette, oui. C'est ça.
C'est ça.
Et c'est par rapport, justement, à ma prise de poids et à mon, j'ai tout le temps envie de manger, donc c'est un peu mon problème. Et voilà, donc je l'exprime par la boulangerie, les chouquettes et ensuite, le kebab, enfin. Faut venir voir le spectacle pour tout ça, mais voilà.
Yannick, vous interprétez le rôle de Cyrano, mais également celui de De Guiche.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, qui est ce personnage? Qui est De Guiche?
Alors, De Guiche, c'est un personnage de la haute noblesse, hein, qui est le neveu de Richelieu, qui a beaucoup un très grand pouvoir et qui souhaite, qui a des vues sur Roxane. Et il souhaite faire épouser Roxane à un de ses sbires qui s'appelle Monsieur de Valvert pour pouvoir profiter de Roxane puisque lui-même est marié. Roxane n'y souscrit pas, évidemment. Et c'est un personnage qui tourne autour, qui rôde autour de Roxane et qui est un véritable prédateur, en fait. Hein. Il est très dangereux. Il a énormément de pouvoir et il va se révéler être l'ennemi juré de Christian et de Cyrano également.
Ouais. Oui, parce que elle est amoureuse de Christian, on le rappelle à nos auditeurs. On peut peut-être rappeler, Yannick, l'histoire de Cyrano dans ses grandes lignes.
Hein. Oui, alors comme l'histoire dans ses grandes lignes, c'est une histoire en triangle. C'est-à-dire, il y a trois personnages principaux. Il y a Roxane, il y a Christian et il y a Cyrano. Cyrano est amoureux en secret depuis sa plus tendre jeunesse de Roxane. Ils ont à peu près le même âge, hein. Mais il ne lui a jamais avoué parce qu'il est très complexé. Son complexe, évidemment, c'est son nez. Roxane est une jeune orpheline qui a peut-être une vingtaine d'années et qui tombe amoureuse de Christian, qui est un jeune Gascon,
hein, oui,
qui
jeune Gascon.
Il vient de faire son entrée dans le régiment de l'escouade de Cyrano et il y a eu un petit coup de foudre à son arrivée à Paris et ce qui fait que ils vont tous les deux se tourner un petit peu autour, mais Christian lui est très complexé par son verbe, se sent incapable de pouvoir parler d'amour. Or Roxane est une précieuse et elle adore les belles lettres. Et finalement, Cyrano va proposer à Christian de faire une sorte de monstre à deux têtes.
De pacte. Ouais.
De pacte entre eux. C'est-à-dire que lui, il va lui apprendre à parler d'amour. Et à travers lui, à travers Christian, il va pouvoir parler d'amour à Roxane. Et ça va être un énorme mensonge qui va perdurer pendant plusieurs années finalement.
Et oui. Voilà, elle ne sait plus. Enfin, si elle pense que l'un et l'autre.
Tout à fait.
L'un et l'autre. Exactement.
Oui, oui. Voilà. Et alors, le texte d'origine est-il respecté, c'est-à-dire en vers, hein, bien évidemment.
Oui, oui, tout à fait.
Mais a-t-il été adapté pour
il
la pièce
été, on a, il y a eu des coupes. On a été obligé de faire des coupes car voilà, on a un temps. Il dure 1h40 le spectacle et donc évidemment si on avait monté toute la pièce avec tout le texte, je pense qu'il y en aurait eu pour 2h30. Et donc là, vu en plus qu'on insère nos apartés à nous entre chaque acte, voilà, on a dû couper beaucoup, mais on a gardé toute la trame pour qu'on puisse comprendre évidemment le.
Oui.
Et
l'essentiel, on a vraiment les textes, le texte essentiel, et évidemment les morceaux les plus emblématiques de Cyrano de Bergerac.
Les scènes mythiques sont conservés, la scène du balcon, la scène du nez. Alors justement, on le disait en début d'émission, vous êtes donc un collectif, une compagnie, les Moutons Noirs, hein, que l'on connaît bien. Qui a fait la mise en scène?
C'est une mise en scène collective.
Oui.
On a monté ça à 5, vraiment les 5 comédiens. Donc voilà. Et mais par contre, on a pour une prise de décision, où on dit bon bah là, on s'arrête sur quelque chose. Il y a un comédien qui est metteur en scène, qui s'appelle Axel Drey, qui voilà dit bon bah là, on s'arrête là-dessus parce que sinon on peut parler beaucoup et ne pas avancer. Donc mais c'est une mise en scène collective.
Collective avec les comédiens du spectacle.
Oui. Oui. C'est ça.
Et alors, le texte a été adapté par un des comédiens également.
Ça, c'est Axel Drey et Paola Secret qui ont fait l'adaptation, les coupes. Et par contre, la prise de parole de chaque comédien, donc entre chaque acte, il y a une prise de parole d'un des 5 comédiens et qui va parler de son complexe à lui, quel est son Cyrano. Ce texte-là est totalement libre, c'est-à-dire qu'on s'interdit et les uns et les autres de donner notre avis sur cette prise de parole qui est une prise de parole très intime. Voilà, ça c'est oui. C'est un engagement.
Alors justement, avant la pause musicale, je vais rajouter une sensation que j'ai eue, c'est que avec cette mise en scène de faire jouer finalement le personnage par vous tous, par les 5, j'ai eu l'impression de rentrer beaucoup plus dans l'intimité finalement de Cyrano. de connaître toutes ses facettes quasiment, d'être personnage à multifacettes.
Mmh. Oui, oui.
Alors voilà,
c'est un personnage déchiré en fait. Hein. Je crois qu'il y a, on a tendance à le voir de prime abord comme étant un personnage brillant, extraordinaire, formidable, batailleur, romantique, poète, mais aussi il a tout un fond très noir, sinistre. Hein. Il est terriblement torturé en lui-même. Ce qui va conduire d'ailleurs à ce qu'il se passe un mensonge, une imposture qui va devenir quelque chose de monstrueux et
dramatique.
Et effectivement, c'est toute sa psychologie qu'on déroule là à travers et toute son humanité finalement.
Oui.
Qu'on déroule dans cette version-là. Et je rappelle une chose, c'est que notre titre, c'est Cyrano S. C'est-à-dire qu'il y a une petite parenthèse avec un S à la fin de Cyrano, car nous sommes tous
Cyrano. Oui. On revient tout de suite. Hein. Vous restez dans le studio à Enghien avec nous. On fait une petite pause musicale et on reparlera dans l'émission, bien évidemment, de ce Cyrano décalé et très drôle, avec beaucoup d'humour.
IDFM, 98FM.
Bonjour, et ben j'ai l'honneur et l'avantage d'avoir avec nous Hubert de Vignol, qui a fait un livre que je vais pas le cacher, je dis tout bas, qui s'appelle Dresser la table, tout un art, qui est absolument magnifique, édité dans une très bonne maison qui est Gourcuff Gradé Nico. Alors Hubert, je me permets de vous appeler Hubert parce que je suis comme ça. Votre livre, c'est d'abord le savoir que vous avez sur l'art de la vaisselle, parce qu'il y a des services absolument époustouflants, et vous nous donnez plein d'idées pour mettre la table. Alors, tout le monde n'a pas un service de sève, tout le monde n'a pas des services rares comme ils sont exposé dans ce livre, mais dresser la table, c'est un art véritable qui va du choix de la nappe, des couverts, des fleurs. Comment vous est venue l'idée de faire ce magnifique livre ?
Ben écoutez, c'est assez simple. D'abord, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde de grande uniformisation, où tout est blanc, oui. Blanc, blanc, graisse, beige, graisse, blanc, que tout ce qu'on voit dans les hôtels et les restaurants, tout ça, c'est la même, c'est pareil, les verres ballons, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir une enfance dans des maisons anciennes et belles, dans lesquelles il y avait de jolies choses, et voilà, je trouvais que c'était vraiment merveilleux de pouvoir continuer à créer de très belles tables, et ça reste un témoignage qu'on peut toujours mettre en place quand on veut, parce oui. que vous parliez tout à l'heure des assiettes en sève, tout le monde n'a pas d'assiettes en sève, c'est une affaire entendue. Mais dans mon livre, vous verrez, il y a une table qui est faite avec des assiettes en Valoris.
Oui.
Le Valoris, c'est une faïence du Sud, et qui coûte rien. Vous avez un service pour 500-600 euros. Donc, c'est pas le budget qui vous arrête. C'est simplement l'idée, quand j'ai fait ce livre, quand j'ai créé toutes ces tables, c'est l'idée d'arriver à mettre ensemble des choses qui vont ensemble, avec un œil directeur, évidemment, qui est la couleur, qui est l'époque, qui sont les proportions. Et je vous assure que le choix est gigantesque pour pouvoir faire quelque chose de beau.
Oui, mais vous avez parfaitement raison. En plus, je trouve ce qui prime aussi, c'est l'idée de faire quelque chose de beau et de joli. Alors, on peut faire des jolis décors avec des pommes de pin, des feuilles, tout ça. Si on a un peu de goût, on arrive à faire quelque chose de très joli. Et vous avez oui. raison, il y a parfois des services modestes qui harmonisés avec une jolie nappe et des verres et des bougies peuvent donner l'art de la fête. Et surtout, je vais vous dire quelque chose, moi je prône le fait de se servir de ces beaux services, de ces beaux verres, parce que bon, bah ils seront peut-être dans une caisse pour vos héritiers, mais c'est bien d'en profiter maintenant. Quand on
c'est
est,
évident
quand,
qu'il voilà. faut en profiter. À quoi bon remplir des placards pour l'éternité? Ça sert pas à grand-chose. Il faut en profiter. Alors évidemment, il y a des choses fragiles dont on peut pas se servir tous les jours, mais il y a énormément de choses dont on peut, les services de vient, les services, il y a beaucoup de services en faïence qui sont très beaux.
Absolument, oui.
J'en ai mis
oui.
quelques-uns dans mon livre, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Voilà, il y a des choses qui sont tout à fait utilisables. Bon, les verres, c'est pareil. Il y a des verres en cristal, c'est plus difficile à entretenir, mais
oui.
mais
on un peut, peu de soin, peut... un peu de soin. Alors, les verres en cristal, s'il vous plaît, ne les mettez pas au lave-vaisselle. Voilà, c'est un petit conseil que je tiens.
Merci beaucoup, mais tout est lavé à la main.
Tout, mais vous, Hubert, n'en avez aucun oui. doute. Mais je fais une annonce générale. Alors,
ah oui, non, ça, les verres en cristal, c'est pas fait pour aller au lave-vaisselle.
Et même certaines vaisselles, on ne peut pas. Alors, ce que vous avez une introduction, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'en ai un peu marre d'aller dans les restaurants où on a ces assiettes blanches, grèges, avec des gros verres qui sont pas pratiques. Alors, on a eu l'air des assiettes carrées en verre. Bon, voilà, c'est passé, heureusement. Mais...
Oh non, c'est pas passé du tout, madame. On continue à nous donner des assiettes qui ressemblent à des pots de chambre ou alors des gamelles pour donner à manger à son chien. Non, il y a des assiettes avec des formes tout à fait biscornues. Mais bon, il faut aussi parler de quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les chefs sont les gens qui décident de tout.
Oui, absolument.
Ce qui est un peu dommage, parce que moi, par exemple, je n'explique pas à un chef comment il doit faire un veau maringot ou Dieu sait quoi. Donc, mais maintenant, ils ont la prétention de savoir faire des tables. Et ils ne l'ont pas toujours. Et le goût, c'est pas une chose qui est innée. Vous comprenez, c'est quelque chose qui s'apprend, qui,
oui, c'est une éducation.
Qui se polie avec le temps. Et donc voilà, je ce que je fais est aux antipodes de ce que font les restaurants, les hôtels, et voilà. Et j'essaie moi dans mes constructions de tables de mettre de beaux objets.
Oui.
On parlait de
objets.
Raisonnable, mais j'essaie de mettre aussi des beaux objets parce que il y a une kyrielle de dames très douées et formidables qui font déjà des tas de très belles tables avec des kilos de fleurs, des kilos d'objets de décoration et tout et tout. Et ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est de remettre sur une table des vrais objets, oui. de la vraie porcelaine, des vrais bijoux,
de
la vraie argenterie, de vos verres. Vous comprenez?
Alors ici, sur le plateau, tous, nous sommes tombés amoureux de la table aux oiseaux. Qui est formidable avec ces assiettes qui sont très belles.
au début du livre, vous faites, vous racontez par exemple l'histoire de la fourchette, vous dites des choses, dressez la table, c'est parce qu'à une époque, la salle à manger n'existait pas.
Absolument.
Et qu'on dressait la table là où on avait envie de manger. D'où vient l'expression dresser la table? Voilà.
Donc, bah, dresser, c'est tout simplement parce que voilà. C'était des tréteaux avec une planche. Faut pas imaginer qu'il y avait des tables de salle à manger, ça n'existait pas.
Ça n'existait pas, non.
Non, une planche et des tréteaux, et puis on recouvrait tout ça d'un molleton, d'une nappe, et l'affaire était jouée.
Et puis il y a aussi quelque chose de très important que vous dites, c'est de l'usage du verre à table. J'ai envie de dire, entre guillemets, que c'est assez récent, puisqu'il y avait des rafraîchissoirs, il y en a très bons à Sèvres d'ailleurs, des rafraîchissoirs de flûte et tout ça, mais on demandait à boire à l'échanson ou le valet qui vous était attribué, il vous servait un verre, et le verre, vous ne le gardiez pas à table.
Jamais. Mais tout ça a changé parce que madame, autrefois, il y avait un personnel monstrueux, tandis qu'aujourd'hui, c'est absolument, c'est impossible. Oui. Donc on a mis les verres sur les tables depuis déjà le 19e siècle. Mais au 18e, on n'aurait pas eu idée d'avoir, on rendait son verre à la fois pour qu'on vous le remplisse et surtout pour qu'on le remette à rafraîchir à nouveau.
Oui. Oui. Se trouve dans votre livre là que tout le monde sur le plateau se passe et vous avez des services qui sont superbes, mais je crois que le message que vous passez est très important et on y revient parce que c'est important. Bon, si vous n'avez pas des services qui sont très très chers, vous pouvez faire une très jolie table et aller dans les brocantes, vous pouvez avoir, ou les vide-greniers, vous pouvez avoir des surprises mais incroyable. Moi, j'ai acheté.
Le maître mot, c'est chiner. Ouais.
J'ai acheté des vases en Sèvres à une dame qui était très contente de s'en débarrasser, et moi, j'étais très contente de les prendre pour une somme absolument dérisoire. Quoi. Donc voilà. Donc on trouve de très jolies pièces, et puis on peut faire aussi. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? On peut. Ça a été très à la mode de mélanger un peu les services. Moi personnellement, j'aime bien quand c'est assez uniforme. C'est mon côté psychorigide.
Qu'est-ce que vous appelez mélanger?
C'est-à-dire de mettre des services très différents. Un Creil, un Valoris, un Monoprix.
Tout ça sur la même table.
Oui.
Oui, vous pouvez vous amuser à faire ça, mais à condition que tout soit différent.
Oui.
Comme ça, il y a une volonté de mélanger des services. Mais si c'est pour mélanger deux ou trois services, non, il faut jouer la carte. Mmh. Ou de l'unité, ou de la vraie différence.
Voilà. Mmh. Oui, tout à fait. Patchwork. Oui. Et j'ai envie de vous poser une question indiscrète. Puis-je?
Allez-y.
Oui.
Est-ce que question indiscrète, il n'y a que des réponses.
Est-ce que tous ces services sont à vous, ou vous en avez piqué à des amis?
Alors, je n'ai pas pour habitude de piquer à mes amis.
Enfin, piquer uniquement pour les photos, naturellement.
Non, tout à moi, tout est à moi.
Tout est à vous. Vous avez une collection magnifique. Moi qui adore les services de table et l'art de la table, je trouve que votre livre s'inscrit parfaitement dans le cadeau idéal pour les fêtes de Noël. Agnès voudrait intervenir.
On rappelle le nom du livre, où est-ce qu'on peut le
Alors,
trouver?
Alors, c'est Yannick qui va nous le dire. Ah, bah non, c'est Agnès.
Alors, vous le trouvez dans beaucoup d'endroits.
Dresser la table.
Chez Galignani, qui est la grande librairie d'art, qui se trouve au Rivoli, à côté de l'hôtel Meurice.
Oui.
Vous la trouvez, je crois que vous le trouvez à la FNAC.
On le trouve à la FNAC, très bien.
À la Procure, vous le trouvez dans beaucoup d'endroits.
En tout cas, en
librairie. Vous tapez sur Internet, dresser la table tout un art, et vous allez voir, les pléthores de librairies, vous pouvez le trouver.
De toute façon,
je vais vous dire, c'est très net. Si on ne trouve pas, c'est une mauvaise librairie.
Oui.
C'est une mauvaise librairie si votre livre n'est pas là. Ah bah oui. On la met au bord.
On peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas mon livre.
Enfin, écoutez, alors ce livre.
Ce livre. Chacun voit midi à sa porte et chacun achète ce qu'il pense pouvoir vendre. Voilà.
Est-ce que vous pensez faire un jour une exposition avec différentes tables?
Je l'ai fait il y a trois ans, au château de Cadillac, qui est un château qui appartient à l'État, à côté de Bordeaux.
Oui.
Et j'ai un projet d'en faire une, mais pour le moment, il n'y a pas de choses arrêtées.
Ah, on va travailler sur l'affaire.
Il va y avoir une version, en principe, en anglais maintenant du livre.
In English?
Oui.
Indeed? Bon. Oui. En tout cas, moi, j'attends impatiemment qu'il y ait une exposition d'une manière assez égoïste sur la région parisienne, même si c'est très beau dans la région de Bordeaux. Et naturellement, nous viendrez. Je peux vous dire que sur le plateau, votre livre a fait l'unanimité.
C'est magnifique.
Bah, vous entendez les compliments?
Ah oui, magnifique. Non, c'est vraiment gentil. Tout.
Et puis, en sachant que c'est en sachant que c'est votre collection plus personnelle, c'est d'autant plus impressionnant.
Ouais. Et c'est Hubert, Hubert de Vignoles.
C'est
on
un accumoncellement de choses que j'ai acheté une par une.
Bien sûr.
Pendant 25 ans, et je dois vous dire qu'il y a des services que j'ai constitués en achetant assiette après assiette.
Oui, d'accord.
Ouais. Il y a des services qui sont introuvables. Ouais. J'ai acheté deux assiettes, puis une assiette, puis la salière, et puis un plat, et puis deux assiettes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
D'où votre expression chiner.
Voilà, chiner. Il faut chercher, il faut aller aux puces, il faut aller dans les salles des ventes, il faut
dans les vide-greniers. On fait des découvertes.
Oui, les vides-greniers.
Parfois, moi, j'ai fait des découvertes.
Les vides-greniers, c'est souvent des vides-poubelles.
Oui.
Il faut trouver le bon vide-grenier, hein, parce que ça peut. ça finit en basket sans lacets et en.
Qui ne nous intéresse pas beaucoup.
Non. Et en chargeur de portable.
Mais c'est joli, l'idée.
Cher monsieur, je vous remercie infiniment d'abord.
Mais madame,
votre livre a été vraiment un ravissement. Unanime sur le plateau. Il va falloir que je me batte pour garder mon livre.
Mieux. Je suis très heureux que ça vous plaise et j'espère que ça va donner surtout beaucoup d'idées à des gens de ressortir ce qu'ils ont dans leur placard.
Ah oui, c'est ça, oui.
Ou de trouver des choses qui peuvent, on arrive à Noël, qui peuvent faire des dîners de fête. Tout ça est, à mon avis, très joyeux.
C'est un beau cadeau de Noël.
Merci beaucoup, beaucoup.
Merci infiniment. À très bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci, Hubert.
Au revoir. Nous allons faire une pause musicale avec toujours, peut-être, le fantôme de l'opéra.
On a le Louvre et Notre-Dame, mais ça ne suffit pas. On a du monde, les plus belles femmes, mais ça ne suffit pas. L'Arc de Triomphe et la Joconde, mais ça ne suffit pas. On a la plus belle ville du monde, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il nous fallait un opéra. Qu'on arrive d'ici ou qu'on vienne d'Elida, tous les chemins mènent à Paris et toutes les rues à l'opéra. Il n'y a de paradis qu'ici, en tout cas ici-bas. L'opéra, l'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat. Allez, mes amis. Tournoient les robes et les gibus,
carrefour de l'opéra.
Roule la foule des omnibus,
carrefour de l'opéra.
Les pavés résonnent de mille pas,
carrefour de l'opéra.
Les entrechats et des petits rats,
carrefour de l'opéra.
Carrefour de l'opéra. Et bienvenue à l'opéra. Qu'on arrive d'ici ou qu'on vienne des lilas, tous les chemins mènent à Paris et toutes les rues à l'opéra. Il y a le paradis qu'ici, en tout cas ici-bas. L'opéra, l'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat.
Merci à l'auteur, au compositeur, aux accessoiristes et aux machinistes, aux chefs d'orchestre, aux musiciens, aux choristes, aux bois de corps de cuivre et aux percussionnistes, clic-clic, aux costumiers, décorateurs, régisseurs, aux souffleurs, aux ouvreurs, aux chanteurs, aux répétiteurs et à nos fleuristes. Bref, merci à cette grande équipe, cette véritable armada.
On arrive ici où qu'on vienne des lilas, tous les chemins mènent à Paris et toutes les rues mènent à moi. L'opéra, l'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Marie-Laure.
Carrefour de l'opéra, extrait du fantôme. de l'opéra.
Oui, puisque tu en as parlé déjà au Théâtre Antoine et tu vas en reparler tout à l'heure. Alors, je reviens un peu avec nos deux invités pour parler de Cyrano avec un S.
Tout à fait.
Nous sommes tous Cyrano au Lycernaire. Donc, nous sommes avec Roland et Yannick.
Oui.
Hein, on en a déjà parlé, hein, Marie-Laure, en début d'émission. Alors, moi, j'ai une question donc sur la mise en scène. On va revenir un peu à la mise en scène, assez sobre. Vous êtes tous habillés en noir.
C'est ça, tout
donc,
à fait.
Un peu sweatshirt gris, avec capuche, la plume rouge. Alors, est-ce que vous pensez que le fait de jouer tous, chacun à votre tour, Cyrano, finalement, qu'est-ce que ça apporte au personnage?
Bah, comme je vous disais tout à l'heure, déjà, pour un comédien, d'incarner Cyrano, c'est un peu le rêve d'une vie de comédien. Enfin, on a envie de jouer ce personnage. Enfin, c'est un personnage fantastique à jouer.
Le Graal.
Oui, c'est un peu le Graal, oui, c'est vrai. Donc, de pouvoir tous l'interpréter. Et puis, en plus, on a une comédienne sur les cinq comédiens. Il y a une comédienne qui joue avec nous. C'est important aussi de faire jouer une femme et de qu'elle puisse défendre ce rôle. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais c'est extraordinaire. C'est une partition incroyable à jouer.
Oui, parce que justement, il y a plusieurs distributions.
Oui.
Pour le spectacle.
Oui.
Oui, on est plusieurs effectivement à jouer en fonction de nos disponibilités les uns les autres. Mais effectivement, oui, chaque rôle est incarné par deux ou trois comédiens, effectivement.
Tout à fait.
Oui.
Tout à
fait. Et alors le fait d'arriver et de parler de votre intimité, ça évidemment, ça amène en plus quelque chose à l'intimité hein, du personnage.
Oui, c'est ça. C'est apporter effectivement une autre facette du Cyrano, et c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est apporter les multiples facettes que peut incarner Cyrano à travers ses cinq comédiens.
Oui.
Et c'est aussi d'offrir différentes visions possibles de ce Cyrano.
Oui, parce qu'en final, Edmond Rostand l'a créé par rapport à son nez, mais on veut essayer de montrer entre chaque acte avec nos propres complexes que ça pourrait être, il aurait pu l'écrire avec un énorme ventre, des grandes oreilles, des difficultés à s'exprimer. Bon, bah là, c'est pas le cas parce que lui, c'est sa verve qui fait que c'est un grand personnage. Mais voilà, on a tous des complexes et on a tous, pour aller voir une fille, essayer de la conquérir, des choses à soi où on se dit, non, là, ça va pas le faire. Yannick, dans son intermède parle de ses dents, où il avait des problèmes de dents quand il était jeune, et voilà, il y a plein de choses qu'il faut des fois on n'ose pas aller voir une femme parce que on sait pas comment s'y prendre, physiquement il y a un défaut, voilà, c'est ça Cyrano, hein, c'est là, c'est le nez, mais ça peut être plein de choses.
C'est des complexes psychologiques, évidemment.
Tout à fait. Aussi.
C'est un petit peu le cas de Christian. Finalement, dans ces trois personnages, on a Roxane, Christian et Cyrano. Ils ont tous quelque part un complexe. Christian, lui, il est complexé par son langage, son incapacité à pouvoir exprimer les choses. Cyrano, bien sûr, par son physique. Mais Roxane aussi, elle est peut-être complexée aussi, peut-être par sa position en tant que femme, le fait aussi, elle est qualifiée de précieuse, peut-être elle est obligée, contrainte aussi peut-être de se positionner aussi dans cet endroit-là en tant que précieuse, parce qu'elle est aussi la proie potentielle de plein d'hommes qui rôdent autour d'elle, et finalement peut-être qu'elle est obligée de se positionner, et peut-être qu'elle est complexée en tant que femme finalement de par sa position sociale.
Hein.
Oui. C'est tous ces trois personnages-là finalement sont dans une forme de mal-être qui va conduire à cette tragédie. Finalement.
Oui, voilà. Alors évidemment, le spectacle est très burlesque aussi. Hein.
Oui, il y a beaucoup de
pointes d'humour.
Bien
et
sûr.
Alors des chorégraphies.
Oui.
Également, par exemple, je pense à celle de la fin de l'acte 3. Voilà, une chorégraphie collective.
Tout à fait.
Et finalement, qui apporte une touche, je trouve, humoristique à la mise en scène.
Ouais, oui.
Ouais, c'est une chorégraphie effectivement là qui met en scène tout l'ensemble des cinq comédiens et qui est une façon de se libérer d'exprimer par la danse, à travers la danse, de cette libération de ces complexes qui nous embarrassent et qui nous empoisonnent la vie.
Voilà, donc c'est Cyrano avec un S, nous sommes tous Cyrano, c'est au Lucernaire jusqu'au 15 février.
Tout à fait.
20h30 du mercredi au samedi, 17h le dimanche. Et Marie-Laure, on parlait tout à l'heure justement de cette fameuse compagnie de théâtre Les Moutons Noirs, puisque tous les deux vous avez fait beaucoup de comédia dell'arte aussi.
C'est ça.
Et vous avez joué avec Anthony Magnier, la compagnie Viva la Comédia.
Oui.
Et vous-même, vous êtes créateur de masques.
Alors, facteur de masque, oui, Yannick Lobin,
c'est ça, Yannick,
l'aîné du spectacle.
Voilà, alors ça, ça vous vient de la comédia dell'arte.
Oui, j'ai travaillé pendant des années et des années avec un maître facteur de masque et décorateur qui s'appelle Stefano Perocco, dit Meduna, et j'ai travaillé, on travaillait à Montreuil, dans les studios Pathé. Et donc j'ai appris effectivement à fabriquer des masques traditionnels en cuir, mais aussi avec différents matériaux, dont ce matériau qu'on emploie là pour réaliser, que j'ai utilisé pour réaliser l'aîné, qui est en matériau très moderne et très léger.
Voilà. Oui, alors là, dans Cyrano, il n'y a pas vraiment de masque, mais c'est surtout les...
C'est un masque nez.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est surtout les nez. Mmh. Eh ben, écoutez, merci beaucoup.
Mais nous sommes toujours là.
Voilà,
tu dis merci parce que toi, tu t'en vas, mais nous restons là.
Voilà.
Donc
vous restez avec nous.
Voilà, nous restons et nous allons... Très justement, Yannick m'a dit, mais le fantôme de l'opéra, mais qui joue dans le fantôme de l'opéra?
Eh oui.
Il n'y a qu'à me poser la question et je vous réponds. Voilà. Alors, nous avons... Alors d'abord, le programme est très bien, parce que parfois, les programmes de théâtre ne sont pas bien. Mais là, ce que je trouve très agréable, c'est d'avoir la photo des comédiens.
Ah,
voilà. Parce que vous avez parfois des distributions, dit oui, mais qui est qui? On ne sait pas forcément. Alors, j'ai trouvé formidable Bastien Jacquemart, qui fait... Le fantôme de l'opéra.
D'accord.
Très belle voix,
ouais.
Ce qui aide pour chanter, vous me direz. La très jolie Maëlys Afrane qui fait Christine, dont le fantôme tombe amoureux. Louis Buisset et Raoul de Chanimou qui lui choupinait. Voilà. Annaka qui fait une Carlotta complètement déjantée. L'excellent Fabien Richard qui fait Monsieur Firmin. Quand il y a Fabien Richard, moi j'y vais. C'est comme ça. C'est un artiste formidable. Il sait tout faire, ce garçon. Il chante, il joue du piano, il fait des claquettes. Voilà, mais pas là. Catherine Arondel, qui fait Madame Giry, que j'ai trouvé très bien. Victor Maréchal. Et voilà. Et vous avez cette troupe en costume et tout ça. Hier, mais alors, moi j'ai vu deux spectacles avec le public debout qui ovationne.
Ah.
Ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça.
Donc, venez voir le Cyrano.
Ah ben le Cyrano, mais c'est du délire, on peut même pas rentrer tellement il y a le monde. Donc, ils sont obligés d'appeler la sécurité pour que les spectateurs quittent le plateau.
Voilà.
Donc ce fantôme de l'opéra. Alors faites attention, parce que le fantôme se joue que jusqu'au début janvier. Donc c'est du mercredi au samedi à 19h, voilà. Allez-y, retenez vos places. Et alors, mais Francky me dit, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Noël malin? En Noël malin, regardez. C'est Marbling Studio. Alors Yannick, il veut me le piquer. Parce que Yannick, non seulement il est facteur de masques, il faut qu'on parle tous les deux. Et alors, c'est la peinture qui flotte dans l'eau. Silverlite, c'est une excellente maison. Les jouets sont sérieux, ils sont très bien faits. Et c'est pour ça que nous sommes partenaires. Vous avez une feuille, un bac pour mettre les feuilles à tremper. Vous avez des outils pour créer vos papiers. C'est-à-dire que vous avez une petite molette, une pince pour prendre les papiers sans s'en mettre partout. Vous avez naturellement les couleurs. Et nous l'avons testé. Nous l'avons testé et nous avons fait des papiers d'une beauté.
Oh, voilà.
Je ne vous dis que ça.
J'attends
voilà.
De voir ça.
Très bonne nouvelle pour les gourmands.
Oui, et puis pour les enfants, ça leur changera des tablettes peut-être aussi. Voilà.
Exactement, voilà.
Oui.
Très bonne nouvelle pour les gourmands, c'est le retour des chocolats puis Ricard.
Ah.
Pour avoir un ballotin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler et aller
directement chez Purica, qui se trouve avenue Rapp, dire « Nous sommes invités par IDFM 98, toute la culture en parle !» Et vous aurez un ballotin. Mais pour cela, il faut nous appeler avant pour dire votre nom, parce que vous y allez comme ça.
Ben oui.
S'il n'y a pas eu l'imprimature Marie-Laure, il
n'y
aura rien du tout. C'est comme ça. Et alors, la mascotte maison aujourd'hui, ça a été l'insupportable Furby. Que pouvez-vous en dire, Yannick?
C'est vrai qu'on a eu du mal à passer pendant quelques minutes du temps avec ce petit fifou qui n'arrête pas de faire du bruit et de chanter dans tous les sens.
Oui, c'est-à-dire mais, au début c'était amusant.
On l'a aimé.
Mais
et
après,
et on,
prenez
on
toute
aimerait,
la place.
On aimerait maintenant le rallumer.
Voilà. Alors, il a le ventre avec des différentes couleurs.
Ouais.
C'est chez Hasbro, Hasbro créateur, qui offre à nos auditeurs ce magnifique Furby. Comment on peut dire arc-en-ciel?
Arc-en-ciel, tout à fait.
Multicolore. Il a les oreilles qui bougent,
ouais.
Le petit nez, les yeux qui bougent, la bouche qui s'ouvre.
Il est très chouchou. Donc,
voilà. Et on a parlé naturellement du livre sublime. Alors moi. Moi qui adore mettre des jolies tables.
Ah bah là,
je peux en mettre des moches aussi, mais plutôt jolies.
Là, on est servi.
C'est Hubert de Vignolles qui est un monsieur.
On est servi.
J'ai trouvé exquis.
Mmh. Ah oui, c'est vrai. Très gentil.
Ouais. Dresser la table tout à l'heure. Et puis, c'est tellement agréable d'avoir cette politesse exquise, je trouve. Nous avons parlé de vraiment la grande surprise pour moi. Je dois avouer. Je me suis fait cueillir Le bourgeois gentilhomme, une mise en scène formidable de Jérémy Littmann, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup.
Avec des costumes fabuleux aussi. Hein.
Ah, les costumes sont super. Vous l'avez vu?
Non, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas...
Ah, c'est superbe. Ce qui m'a plu, c'est que, je veux dire, on dit au public, on donne du grain à moudre au public. Il y a un beau décor. Il y a des idées, il y a un lustre en cristal. Après ce lustre, on va le transformer pour faire un dé à la turque. Voilà, voilà. C'est vraiment très joli. Et puis, on a parlé avec vous, messieurs, de 1, 2, 3, 4, Cyrano.
Oui.
Mais finalement, à jouer Cyrano, vous êtes combien?
On est 5.
5.
Ouais, il y a 5 actes et on fait 5, un acte chacun.
Et je trouve formidable, c'est d'avoir une femme.
Oui.
Je suis pourtant pas féministe comme ça, mais là je l'ai trouvé formidable et ça fonctionne.
Et oui, bien sûr.
C'est ça. Ouais.
Et on passe d'un Cyrano à l'autre et on suit vraiment la pièce. Il y a pas de voilà, on n'est pas perdu. Et c'est vrai qu'on est d'avoir une femme qui joue Cyrano pour nous.
Ouais, ça, c'est formidable.
C'est formidable.
Et puis c'est un Cyrano batailleur, hein, parce que là c'est la première intervention de Cyrano. C'est Cyrano, fille, voilà.
Ouais.
Qui est incarné soit par Camille, soit par Pauline,
soit Sophie. Trois comédiennes incroyables.
Ouais, alors, effectivement, pour répondre à votre question, effectivement, on est 10 en fait faire la distribution de ce Cyrano.
Oui,
et vous pouvez venir.
Mais
vous
on n'est pas 10 sur le plateau.
Non.
Voilà, donc
vous pouvez venir 3, 4 fois, 5 fois, vous verrez toujours un Cyrano différent.
C'est ça qui est formidable. Voilà.
On peut même peut-être les citer. Il y a Thibaut Sommin aussi, il y a Charlie Labourier, il y a Sophie Staub, il y a Pauline Paolini, Camille Demour,
Bertrand Saunier, Axel Drey,
Roland Bruy, Yannick Lobin. Je crois qu'on a dit tout le monde. Sinon,
on
va se faire engueuler.
Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons dans Noël Malin l'insupportable Furby, qui a été notre mascotte de l'émission. Hop, viens par là.
Et Victoria Robert. Voilà.
Victoria vient de m'appeler. Elle n'est pas contente. Hein,
ah ben.
Alors, le Marbling Studio, que je trouve, ça c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de... Et puis Silverlit, c'est vraiment une marque sérieuse. Hasbro, qui nous a fait un Furby. Oh, arrête de me chatouiller. Ouh, là, arrête. Au Théâtre Antoine, vous avez... Le bourgeois gentilhomme, qui est un immense succès.
Ah oui, voilà. C'est un carton.
Le fantôme de l'opéra, qui est un immense succès. Cyrano Lucernaire, qui est un immense succès. On a également le magnifique livre, qui est vraiment un cadeau de Noël époustouflant.
Ah oui.
Dresser la table tout un art, et combien il a raison. C'est chez Gourcuff Gradenico, qui est vraiment une maison d'édition. Mais moi, tous les livres que j'ai d'eux, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, alors. Voilà, hop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Hein? Je vous le demande un peu. Ah, j'ai oublié de dire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là avec nous. Francky qui me fait, bon, bah, maintenant, tu rends le micro. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rentrer chez eux, voilà.
Ouais. Donc, c'était très agréable, en tout cas, d'être parmi vous.
Ah, merci voilà. beaucoup. Et vous étiez d'excellents invités, des dresseurs de furbias pour Sylvia. Et les chocolats, Purica. Oh,
tout à fait, faut pas oublier.
Bons, les chocolats. Mais alors, maintenant, je suis trop connue. Je peux pas y aller avec les noms des auditeurs.
Ah.
Ils me disent, oh,
non, oui.
Marie-Laure.
Ça sent l'arnaque.
Ça suffit, hein, voilà. Bon, Francky était à la technique avec, on l'appelle Manitas des Platas. Voilà. La semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va avoir, hein? On va recevoir le Père Noël et un lutin de Noël. Il y aura des cadeaux, des idées pour aller au spectacle pendant les fêtes. Mais qu'est-ce que vous allez te gâter? Magnifique, alors des magnifique. Livres, des jouets, des chocolats. Bon. Mais c'est bien simple, si vous n'êtes pas à l'écoute, vendredi à 19h, 18h, je ne sais plus quoi vous dire. Bon, Francky, merci. Messieurs, je vous embrasse. Vous
merci
êtes des invités formidables.
Merci à vous.
Et la semaine prochaine, si vous le voulez, bien sûr, IDFM 98 Radio. Youpi, c'est fait.